Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Monaco, un petit paradis au bord de la Méditerranée, niché entre Nice et la frontière italienne, le joyau de la French Riviera, ses princes et ses princesses, ses galas de charité et ses boutiques de luxe. Ici, il fait bon vivre, le climat est agréable, la sécurité maximale, le taux de chômage très faible et les revenus par habitant sont parmi les plus élevés du monde, avec plus de 200 000 dollars par an et par habitant. Un des lieux les plus cosmopolites du monde aussi, avec 140 nationalités qui se côtoient. Et en plus, on ne paie aucun impôt direct à Monaco, rendez-vous compte. Ni impôt sur le revenu, ni taxe foncière, ni taxe d'habitation. Anne El Abbassi travaille ici, dans un grand hôtel de luxe avec piscine au bord de la mer. Son histoire est relatée dans Monaco Hebdo et aussi dans Monaco Matin. Lorsqu'elle se trouve contrainte de prolonger un arrêt maladie d'un mois à la suite d'un accouchement compliqué, Anne reçoit une convocation de son supérieur. Elle se rend au rendez-vous, un peu inquiète, et elle apprend qu'elle est licenciée. Le motif ? Aucun. Anne ose alors s'ouvrir de sa situation à ses collègues. Son responsable appelle immédiatement la sécurité et la fait sortir manu militari. En cause, le fameux article 6 du paradisiaque Code du travail monégasque qui stipule que, je cite, « le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté de l'une des parties ». Il faut en principe respecter un préavis d'un ou deux mois selon l'ancienneté, mais c'est assez théorique. Anne, cependant, ne se laisse pas faire. Après 6 mois de mobilisation active auprès des travailleurs monégasques, elle obtient à grand-peine le choix entre un poste fantôme et des indemnisations. Elle choisit la seconde option, mais soumise à une obligation de réserve par sa direction, elle n'en dira pas plus sur l'issue plus ou moins princière de ce conflit. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, 3 autres histoires de licenciement à l'américaine sur notre rocher presque national, racontées par Stéphanie Thomas.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Alors, je suis arrivé à Monaco en 2013 pour un poste dans une société. Le projet me semblait intéressant. J'avais 48 ans. Alors, l'ambiance au départ était bonne puisque j'étais venu pour développer une marque de A à Z et son réseau de distribution mondial et puis aussi les différents départements dans la société qui permettent le développement d'une société. Et mes employeurs, c'était des personnes de ma tranche d'âge, qui n'étaient pas monégasques, qui étaient des Français, qui se sont installés certainement sur Monaco pour une certaine flexibilité qu'offre la loi monégasque. Si vous voulez, à Monaco, il y a effectivement l'article 6 qui permet de licencier qui on veut, comme on veut, quand on veut, et sans avoir à se justifier. Donc c'est une souplesse qui permet aux entreprises, en fonction des situations qu'elles rencontrent, de se délester ou d'embaucher. Et puis, chemin faisant, la société a connu ses premiers résultats. Et au bout d'une année, les choses se sont un petit peu dégradées. Les raisons, j'essaye toujours de les comprendre, je les comprends toujours pas. Après, la forme que ça prenait, c'était des insultes au quotidien, c'était « t'es qu'un gros con, de toute façon t'y connais rien, t'es qu'une merde », enfin voilà. Une ambiance vraiment particulière de travail, très 19e je dirais. Donc la première fois vous êtes choqué, vous dites « tiens, c'est étonnant cette manière de faire », la deuxième fois vous vous révoltez et la troisième fois vous vous dressez debout. Et puis là, en face de vous, vous avez quelqu'un qui s'excuse, oui, alors, les mots ont dépassé mes pensées, enfin, etc. Mais c'était journalier, y compris devant les personnes que je manageais. Donc après, vous avez zéro crédibilité, tout simplement, auprès des gens que vous managez. J'ai tenu presque 4 ans, c'est-à-dire que pour moi, il était totalement exclu de quitter le navire et de jeter l'éponge en disant j'en ai ras-le-bol de cette manière d'être traité et en laissant derrière moi des gens que j'avais fait venir. Ça, c'était totalement exclu. Et donc, dans une phase de renégociation contractuelle, en retour de congé, j'ai été convoqué par ma direction qui m'a demandé de m'asseoir et une fois que j'ai été assis, m'a signifié que j'étais viré. Alors j'ai répondu si c'était une blague, c'était de fort mauvais goût. Et on m'a répondu mot pour mot, t'es viré, tu dégages, je veux plus voir ta sale gueule de con et t'as 20 minutes pour dégager. Voilà. Ça a été fait de manière abjecte devant tous mes employés, si je puis dire, enfin toutes les personnes qui me rapportaient. Donc je suis parti blanc et en pleurs. Je suis parti, comme on dit, la queue entre les jambes, avec ma petite sacoche et mon ordinateur, et tout s'arrêtait. Vous vous retrouvez dans une situation où c'est comme si on m'avait privé en fait du succès de ce que j'avais créé. Ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième chose qu'on se dit tout de suite, mais comment je vais faire pour annoncer ça à ma femme, déjà. Et puis, la troisième chose que vous dites, mais comment je vais faire pour faire face à mes dépenses au quotidien, voilà. Quand vous avez un niveau de revenu qui est élevé, voire très élevé, et que d'un seul coup tout s'arrête, votre vie, elle change de façon drastique. Et elle change du jour au lendemain. Au début, c'était une tentative de licenciement pour faute grave, alors qu'il n'y avait rien du tout, hein, le dossier était vierge, comme on dit. Donc l'employeur avait compris que j'allais me défendre, donc la faute grave est devenue faute, et puis comme il a compris que j'irais jusqu'au bout, parce que je ne suis pas quelqu'un qui baisse les bras comme ça, ben, ça s'est terminé en article 6. Donc c'est là où l'utilisation de l'article 6 est totalement fallacieuse. Il aurait fallu à mon employeur qu'il utilise l'article 6 immédiatement, plutôt qu'il ne fasse une tentative de licenciement pour faute grave, puis pour faute et finalement pour article 6. Et puis, il vous faut bien déjà une semaine, voire une quinzaine de jours pour comprendre effectivement ce qui vous est arrivé et quelles vont être les conséquences pour vous, pour votre famille, pour vos proches. Et à ce moment-là, c'est le deuxième choc après celui de l'interview avec votre employeur. Quand vous réalisez, en fait, c'est là où vraiment c'est extrêmement difficile. Et là, ben, vous avez un grand trou noir qui s'ouvre sous vos pieds et c'est le début d'une descente aux enfers. Et donc voilà, on a été obligé de revendre notre appartement, notre voiture, tout notre mobilier, enfin, etc. On s'est préparé à la tempête. On s'est retrouvé dans 21 mètres carrés à 4. Ben, quand vous avez des enfants, c'est difficile de leur expliquer. C'est des pleurs, c'est des embrassades parce que vous êtes dans un environnement aimant. Et puis, quand vous êtes dans une situation où vos revenus ont été divisés par plus que deux, vous vous interdisez absolument tout. C'est un moment dont vous vous rappelez toute votre vie. Voilà. Et puis, j'étais à un âge, quand c'est arrivé, où, à 50 ans, vous êtes mort dans le milieu du travail. Vous êtes extrêmement compétent, mais vous êtes trop expérimenté, vous êtes trop cher, et ça a été extrêmement difficile. Vous arrivez toujours en finale, lors des entretiens d'embauche, et puis vous n'êtes jamais la personne qu'on choisit. Puis ça a perduré par la suite, puisque LinkedIn, qui est un réseau social professionnel, qui est fort bien par ailleurs, hein, est aussi quelque chose de très dangereux. Parce qu'en fait, vous avez toute votre historique professionnelle sur LinkedIn. Et puis à chaque fois que vous avez un chasseur de tête qui vous chasse, bien entendu, il va sur LinkedIn. Et puis en phase finale, il va appeler vos anciens employeurs. Et puis là, qu'est-ce qu'on disait ? Ah, Frédéric, c'est quelqu'un d'exceptionnel. En marketing, c'est le meilleur de sa génération. Mais alors, pour le reste, et boum, et on m'a savonné la planche comme ça pendant 2 ans. Jusqu'au jour où j'ai pu le prouver. Et puis voilà, c'est rentré dans le dossier, puisqu'aujourd'hui, je suis toujours en procès avec cette société. Et au bout de 2 ans, vous arrivez en fin de droit de chômage, et là, vous n'avez plus rien pour vivre. Et là, c'est très difficile. Et donc, je me suis retrouvé dans la situation où, à 50 ans, j'ai dû créer mon entreprise en investissant tout l'argent que le couple, la famille avait, avec une prise de risque énorme, parce que si je m'étais planté, eh bien, ma foi, on serait aujourd'hui tous sous les ponts, à la soupe populaire. Et heureusement, je ne me suis pas planté, et aujourd'hui, j'ai une entreprise qui fonctionne très très bien, qui croît, Et mon malheur a été malheureusement de rencontrer ces gens-là sur ma route. Mon malheur pour les 5 dernières années et peut-être mon bonheur aujourd'hui parce que je m'épanouis pleinement dans la réalisation de mon entreprise. Et ça a été le coup de pied aux fesses peut-être qui m'a permis de créer mon entreprise. Voilà, j'aurais souhaité le faire dans d'autres conditions. Ça s'est fait comme ça. Et donc, ben, ça aura mis quasi 6 ans pour arriver aujourd'hui au dénouement au niveau du tribunal du travail à Monaco. Après, par rapport à l'article 6, je suis plutôt entrepreneur dans l'esprit, donc c'est pas quelque chose qui me choque, dans la mesure où ça permet effectivement de pouvoir gérer son entreprise correctement. Après, voilà, l'utilisation ou pas de l'article 6, la manière dont ça va être fait, si c'est fait avec une certaine éthique, certaines valeurs, je pense que c'est un plus pour une industrie qui sera beaucoup plus dynamique. Par contre, si c'est utilisé à mauvais escient, oui, l'effet est redoutable. Quand on se retrouve, entre guillemets, victime de l'article 6 et que votre vie s'arrête quelque part, oui, ça a été une descente aux enfers.
J'habite à Menton, Alpes-Maritimes, et travaille à Monaco depuis maintenant 22 ans. Bon, il y a beaucoup de tourisme à Monaco, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a beaucoup d'industries aussi à Monaco. C'est un peu comme un pays. Donc Monaco a besoin quand même de fabriquer des choses pour sa richesse, pour justement l'équilibre de son pays en fait. J'ai commencé à travailler dans cette société en 98 parce que j'ai fait un intérim au début. Moi, j'étais très content les 18 premières années. C'est parfait, j'avais des responsables qui me faisaient confiance. C'est comme ça que j'ai évolué dans la société. C'est une usine qui faisait de la fabrication. Si je faisais pas mon travail, il peut y avoir des machines arrêtées. Donc, les 5 responsables que j'ai eu avant la restructuration étaient ravis de moi et puis avaient justement la paix parce qu'ils n'avaient pas à me dire ce qu'il fallait faire. C'est moi qui leur rendais des coups de main de temps en temps, leur donnant des informations, et ça se passait très bien comme ça, jusqu'au jour de la restructuration. Donc j'ai formé les gens, et ensuite, ça s'est pas très bien passé pendant 2 ans. On a travaillé quand même à ce que je parte de moi-même. À chaque fois, avant l'entretien annuel, pour analyser mon travail, 1 mois et demi avant, on me coupait le fait de faire des heures supplémentaires. Ça, c'était régulier, hein, l'entretien qui se passait au mois de décembre. Je savais qu'à partir du mois d'octobre, je pouvais plus faire d'heures supplémentaires. Donc ça, c'est très facile, en fait, de manipuler quelqu'un pour lui faire des bêtises, ou lui dire qu'il faut faire une chose alors qu'il y a 2 choses plus urgentes à faire. Quand on doit se tenir aux ordres qu'on nous donne, ben, on est bien obligé de suivre. Donc, ça m'est arrivé de venir plus tôt, de pointer après, pour pas que tout parte en Java, pour pas qu'on puisse me reprocher quelque chose. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je changeais d'horaire toutes les semaines. Par exemple, une semaine, s'ils décidaient que je travaillais la nuit, ben, je travaillais la nuit. La semaine suivante, s'ils décidaient que je faisais 6h, 13h, ben je faisais 6h, 13h. La semaine d'après, si c'était 14h, 21h, ben je faisais 14h, 21h. Et ils m'ont fait faire des heures un peu tordues toutes les semaines. Et puis, le responsable qui attendait que je sois à bout, qui ait une charge de travail énorme et qui venait me voir en me disant avec un petit sourire... Ben, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? On s'attendait que je sois bien fatigué, que j'en puisse plus pour me reprocher les choses à ce moment, au bon moment, quoi. Quand vous avez quelqu'un derrière vous qui attend le moment pour vous tomber dessus, c'est encore plus dur, quoi. J'ai travaillé ensuite pendant les vacances de Noël parce que personne n'était volontaire pour travailler sur Monaco à ce moment-là dans mon service. Et quand je suis rentré, après le week-end du premier l'an, le 2 janvier, j'ai été donc convoqué au FDRH. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a tendu le papier, et avec marqué dessus, donc, licenciement pour article 6. Donc, article 6, c'est un licenciement sans raison. C'est typique d'ici. Donc, ça crée beaucoup de problèmes dans Monaco. Beaucoup de gens ne veulent pas parler parce que beaucoup de personnes ont peur de perdre leur travail sur Monaco. Et donc, c'était un choc. On m'a dit, voilà, vous prenez vos affaires. On m'a demandé si je voulais continuer de travailler pour les 2 heures qu'il me restait à faire ou alors partir. Je suis parti. J'ai dit au revoir à tous mes collègues parce qu'on s'attache au bout de 20 ans quand même. Il y a beaucoup de monde dans l'entreprise et on s'attache aux gens quand même. Donc j'ai fait mon carton, hein, quand j'ai fait mon carton avec mes affaires, mes petits souvenirs, mes petits machins. Et puis on met tout dans une boîte, hein, et puis on s'en va comme ça. Et puis une semaine après, on m'a confirmé mon licenciement sans me donner de raison. Donc ça reste aussi un gros trouble, parce qu'on cherche toujours des raisons au pourquoi du comment. J'ai déjà longtemps fait des nuits blanches parce que je me demandais pourquoi quelqu'un qui travaille bien et qui fait pas de fautes, pourquoi on le harcèle de cette façon-là. Et j'avais 2 mois de préavis qu'on m'a laissé libre, donc j'ai pas eu à les faire. Mais là, les 2 mois, là, j'aurais pas pu tenir. Alors les indemnités, moi je trouve ça quand même assez léger. Après 20 ans, indemnité de licenciement s'élève à 15 500 euros après 20 ans. Maintenant, je travaille par intérim. Et finalement, le travail par intérim, on dit que c'est un travail précaire, et c'est vrai. Mais en fait, les contrats CDI à Monaco ne veulent pas dire grand-chose. Du jour au lendemain, on peut être mis dehors, comme ça, sans raison, sans quoi qu'on fasse. Quoi que j'aurais fait dans la société, s'ils voulaient me licencier, ils m'auraient licencié, de toute façon, et voilà. Une poursuite judiciaire, justement, serait dur pour moi, parce que je me replongerai là-dedans, et j'essaie en fait de tourner la page et d'essayer d'oublier, quoi. Ça, c'est pas évident. Le directeur, quand je suis parti, il était à 5 mètres de moi, il est pas venu me voir pour me dire quoi que ce soit. C'est cette lâcheté qui est dure à supporter. Et de pas avoir de réponse à mes questions. Pourquoi moi, on m'est tombé dessus pour que je parte? Je ne comprends pas, je comprends pas. Et ça reste une souffrance plus que le fait d'être licencié sur le champ, quoi. Ça. De pas savoir le pourquoi du comment. Après 20 ans, c'est quand même, on a fait beaucoup de choses, hein, dans la société en 20 ans. Voilà.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Rino, je travaille à Monaco depuis 1995. Je suis un Italien né en Écosse. Alors, je suis arrivé à Monaco en vacances. J'avais pris 2 jours de vacances quand je travaillais à Milan et en fait, je ne suis plus reparti. Et à Monaco, je suis concierge dans un palace. Concierge consiste à répondre à toutes les questions des clients, ne jamais dire non, à part les choses illicites, bien sûr, et on fait tout, on fait les billets d'avion, les réservations de restaurants, on appelle les médecins, on fait tout, toute demande. Monaco est spécial en tout, c'est pas que le monde du travail. Pour quelqu'un qui travaille dans le luxe, dans l'hôtellerie de luxe, c'est un paradis, hein, quand même. Donc je suis arrivé en novembre 1995, à l'époque ça s'appelait l'Hôtel Loves, qui était une société américaine. Beaucoup d'employés, énormément plus d'employés qu'aujourd'hui, on va dire. Clientèle différente, 95. Aujourd'hui, les hôtels, on peut avoir une chambre à 1000 euros et celui à côté, il la paye 150. Et c'est exactement la même chambre. Donc ça, ça a changé. À l'époque, quand il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous ces nouveaux marchés de vente online, le prix, c'était le même pour tout le monde. Et donc, c'était cher. Très, très cher, le Loves. Hein. Très, très cher. Donc, j'arrive en 95 au Loves, à l'époque. J'ai travaillé 2-3 ans où, franchement, je voyais qu'il y avait énormément d'injustice dans l'établissement, qu'il y avait énormément de licenciements, mais c'était tout obscur. On ne savait jamais pourquoi ton collègue, le lendemain, n'était pas là. Ah non, il a fini. Il n'est plus là. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les salaires n'étaient pas du tout les mêmes. On était en dessous du SMIC français, pratiquement. J'ai essayé de m'approcher au syndicat qui, à l'époque, était un syndicat autonome, qui s'appelait Syndicat Autonome du Loves Monte Carlo. Juste pour apprendre qu'en fait, il ne fallait pas les approcher parce que c'était un peu un syndicat maison. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé de comprendre comment marcher parce qu'on me disait à Monaco, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de syndicat. Et en fait, j'ai découvert qu'à Monaco, il y avait un syndicat donc, qui s'appelait l'USM, l'Union des syndicats Monaco. Donc, avec un collègue qui travaillait à la réception, on est venu voir l'USM en lui disant que travaillait au Loves. Donc, il y a eu des yeux grands ouverts. Ça faisait 35 ans que l'USM essayait de mettre les pieds dans l'établissement et n'arrivait pas à le faire. Parce qu'il n'y avait personne qui avait le courage, on va dire, hein, la vérité, le courage de venir ici et dire « Je veux représenter le syndicat à l'intérieur de l'établissement. Voilà. » Et donc, c'est ce que j'ai fait. Un courrier part donc, si je me rappelle pas, c'était un mardi après-midi. Donc, c'était un courrier pour aviser la direction qu'à partir de demain matin, il y avait un délégué syndical de l'Union des syndicats de Monaco à l'intérieur de l'établissement. Donc, il n'y aurait plus que le syndicat autonome qui fait les lois, les salaires, parce qu'il y avait des grilles de salaires faites par le syndicat autonome. Donc, le lendemain matin, j'arrive au travail et ma carte de pointage n'est plus présente au pointo. Le pointo, c'est où on pointe le matin. Et donc, je comprends qu'il s'est passé déjà quelque chose. Hein. Et donc, je suis accompagné par la sécurité de l'hôtel chez mon, à l'époque, le DRH de l'époque, qui en fait m'invite dans le bureau et me notifie mon licenciement par rapport à l'article 6, donc un licenciement sans motif. Donc je lui dis, évidemment, vous avez reçu le courrier de l'USM où je suis le nouveau délégué syndical de l'Union des syndicats de Monaco. Dit, oui, justement. Donc je lui rappelle la loi, c'est qu'en fait, on ne peut pas licencier un délégué syndical avec l'article 6. Il faut une raison pour licencier un délégué et surtout, il faut passer par une commission de licenciement. Et lui, il dit, c'est pas vous les communistes qui font la loi, vous sortez. Donc en fait, est-ce que je peux au moins récupérer mes choses? J'étais accompagné par la sécurité partout, aux toilettes, dans mon casier. Comme un délinquant, j'ai vu la peur de mes collègues. Ils étaient terrorisés de ce qui se passait. C'est violent. Je suis sorti de l'hôtel et je suis venu à l'Union des syndicats de Monaco. Vous devez écouter, on m'a licencié avec l'article 6. On m'avait dit, tu vas morfler. Tu vas morfler parce que ce sont des gens extrêmement puissants. Et j'ai morflé. J'ai morflé, on m'a coupé les freins de la voiture à l'époque. Hein. Ça, c'est des gens du syndicat autonome. Ils m'ont détruit ma Vespa. Ils ont appelé à la maison. C'était ma pauvre mère qui avait répondu en menaçant. Ouais, non, j'imaginais que ça allait être chaud. On cassait un système en place depuis 35 ans. Mais il fallait quelqu'un qui ait le courage de le faire avec Sébastien, mon collègue. Je suis content de l'avoir fait. J'ai mis en jeu toute ma carrière, mais je suis content de l'avoir fait. Et la pire des choses qui est arrivée, c'est que 2 jours après, j'ai reçu un appel d'un collègue donc, de la conciergerie. Il me dit, il faut que je te voie urgent. Et quand il me dit, j'étais licencié avec l'article 6. Et pendant que j'étais avec lui, on reçoit encore un appel et c'est encore 2 employés de la réception qui disent « Rino, on a été licencié avec l'article 6. » Et ça n'a pas arrêté toute la journée. Ils ont licencié 12 collègues après moi parce que c'était un hôtel avec une direction de délinquants. Alors, il y a eu le procès où je m'en étais clair. On n'avait pas le droit de le licencier. Il est délégué syndical. Lui et autre personne, ils reprennent service demain. Et donc moi, le lendemain, je me suis présenté à 7h du matin, je ne vois pas des gens. Et il y avait la sécurité, donc, au pointo, qui m'ont dit, tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, écoutez, j'ai gagné le procès, je reprends mon poste. Et en fait, le mec de la sécurité, il est sorti, il m'a poussé contre le mur et il m'a dit, tu vas nulle part. Donc, je suis revenu à l'Union des syndicats de Monaco. J'ai dit, ah là, j'ai gagné, mais là, on ne me laisse pas entrer dans l'établissement. Il a dit, tu vas te représenter demain. Il y aura un huissier de justice avec toi. Donc, je me suis représenté le lendemain au pointo avec un huissier. Et en fait, le mec de la sécurité, non, tu n'entres pas. Et donc là, l'huissier lui a demandé ses papiers à lui. Il a dit, monsieur, vous me donnez votre carte d'identité? Il a dit, moi, je suis au travail. Non, 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 vous refusez l'entrée à quelqu'un qui doit reprendre son service aujourd'hui. Donc là, vous me donnez votre carte d'identité. Et là, il a pris un peu peur, il a appelé le DRH. Il a dit, oui, mais moi, je ne veux pas le laisser entrer. Mais là, il est avec un huissier là-haut, je fais quoi? Donc le DRH est descendu, l'huissier lui a donné une notification et j'ai repris mon service. Je suis entré à la cafétéria parce que c'était l'heure du petit déjeuner, parce qu'on a le droit au petit déjeuner avant le service. Et dès que je suis entré, il y avait un silence. Mais... Et tout le monde m'a regardé comme si je venais de l'espace. Quoi. On m'a applaudi. Je me rappelle les valets de chambre qui sont venus vers moi et me dire, Rino, bien, t'as gagné et tout, mais qu'est-ce qu'on fait pour les 12 là, qui sont dans la rue? Et je dis, il n'y a qu'une façon de les faire rentrer. Il dit, c'est quoi? Je dis, c'est l'union. Et un me dit, mais comment on fait? Je dis, mais dis-le, union. Il fait, union. Je dis, toi aussi, dis, union. Dites-le tous ensemble, union, union. C'est comme ça qu'on gagne. Et ils ont commencé à dire, union, union. Et le DRH est entré à la cafette en ce moment-là. C'était marrant. Il a regardé, il a fait, oh non. Et il est reparti. Et voilà. Ça, c'est ma rentrée à l'hôtel. Et avec la nouvelle direction du Fairmont, je suis réussi à réintégrer les 12 personnes. Il n'y a plus d'article 6 dans notre hôtel. Non. Non, non, c'est fini.
Lungo treno del sud che a mezzogiorno passi accanto al mio campo distruggendo il silenzio. Lungo treno del sud, dove hai portato quella dolce fanciulla che tanto amai. Ti prego, quando tu la vedrai,
c'était Licenciement à Monaco, un reportage de Stéphanie Thomas réalisé par Clémence Grosse. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Zoé Marie Roulier, notre stagiaire.
Piangi.